Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non, non.
Oh, pinaise, oui.
Pas ça, non.
Dites mon nom.
Non, non,
non. Merci Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans le détail, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Dans la dernière collection, on vous parlait de Barry, une série peu connue du grand public malgré ses nombreuses qualités et qu'on avait envie de vous faire découvrir. Aujourd'hui, on change de crèmerie, on s'attaque à la série du moment, une série qui parle d'empire galactique, de psycho-histoire et de sanctuaire. Oui, vous avez bien deviné, pour cette nouvelle collection, on s'intéresse à Fondation. On va avoir deux épisodes pour la décortiquer et l'analyser sous tous les angles. Pour ça, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dufy. Salut Julien.
Salut Clémence.
Et Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Avec Fondation, Apple TV+ s'attaque à un gros morceau. La plateforme de streaming mise sur une œuvre réputée inadaptable. À l'origine, il y a le livre Fondation. 5 nouvelles écrites par Isaac Asimov au cours des années 40 et réunies dans un ouvrage publié en 1951. Fondation, c'est un immense classique de la SF et la première brique d'une œuvre dantesque, le cycle Fondation. Au total, 7 livres qui forment un roman historique du futur s'étalant sur près de 600 ans. On y découvre un empire galactique donc qui regroupe 25 millions de mondes habités. Un empire voué à la chute et à la barbarie, c'est le mathématicien Harry Seldon qui le prédit grâce à ses équations. 30 000 ans de ténèbres à venir, mais qui pourraient être réduites à seulement 1000 ans si on suit son plan. Le cycle Fondation raconte donc la première moitié de ce plan. On va revenir plus en détail sur ce récit, ou plutôt ces récits, dans un instant. Récompensé en 1966 par le prix Hugo de la meilleure série de science-fiction fantasy de tous les temps, le cycle Fondation a laissé une empreinte profonde dans le monde de la SF. Ce serait même une des sources d'inspiration de Star Wars, et pourtant, jusqu'ici, toutes les tentatives d'adaptation à l'écran avaient échoué. Mais en 2017, Skydance Television négocie les droits et décide de s'y coller. En 2018, Apple entre dans la danse et le 23 août, on apprend qu'une première saison de 10 épisodes a été commandée pour Apple TV+. Le budget est conséquent, le tournage dure 19 mois et l'objectif de la série est clair, devenir le vaisseau amiral de la plateforme de streaming d'Apple, qui fait encore pâle figure à côté de ses concurrents. Le 24 septembre 2021, les deux premiers épisodes sont dévoilés, puis le public découvre un nouvel épisode chaque vendredi. Le dernier de la saison a été diffusé il y a tout juste quelques jours, vendredi 19 novembre, donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour y consacrer une collection. Alors comme d'habitude, à chaque nouvelle collection, on débute en musique, c'est la petite tradition. Allez, générique. Ce titre d'ouverture, on le doit à Bear McCreary, compositeur américain qui s'est fait connaître au début des années 2000 pour son travail sur la bande originale d'une autre série de science-fiction. Vous savez laquelle ?
Battlestar Galactica.
Mais ouais, bien joué, Battlestar Galactica, effectivement. Et depuis, il n'arrête pas. Un cinéma, d'autres séries télé, Walking Dead notamment, et puis aussi des jeux vidéo comme la franchise God of War. Et alors, ce générique, ça vous évoque quoi ? Qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors moi, je serais un joli thème, hein. C'est plutôt efficace, quoi. Maintenant, c'est pas quelque chose qui, je pense, reste extrêmement mémorable, en tout cas dans ce qu'il a fait. Et après, bah, le générique en soi, qui est encore une fois, Alors je vais peut-être être un peu méchant là, mais je sais que ça évoque certaines thématiques, certains, on voit les vaisseaux spatiaux, on voit ce genre de choses, etc., etc. dans le truc, mais ça, moi, ça m'évoque un peu une pub pour parfum en fait. Je vais être très méchant en fait. Je trouve ça très beau, très joli, mais comme une démo 4K en fait pour les télé 4K, un truc comme ça. Donc du coup, moi en tout cas, je rentre pas dans l'univers à travers ce générique là visuellement quoi. Et je pense que ça fait partie des problèmes. À mon sens, d'adaptation dont on va parler derrière, en fait, qui sont une façon spécifique de concevoir la SF, quoi. Mais voilà, je sais pas, je vais peut-être laisser parler Julien là-dessus s'il y a quelque chose à dire, mais c'est vrai que moi je le trouve un petit peu basique, quoi.
Moi, je pense que ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est le thème de Goyer, c'est-à-dire que lui, qui est le showrunner, donc un des deux showrunners sur la série, et qu'il l'a dit de façon, je trouve, hyper présomptueuse, et ça se sent pas tout le temps d'ailleurs dans le résultat final, hein, loin de là, mais c'est une jolie formule, et j'aurais aimé que ce soit le cas, mais qui prétendait qu'il allait faire du temps à un des personnages majeurs de la série. Ce qui fait sens quand on connaît Fondation, on va en reparler tout à l'heure. Ce qui n'est malheureusement pas aussi sensible, prégnant, évident en fait quand tu vois la série, mais ça on en parlera aussi tout à l'heure. Mais le générique qui est conçu par Imaginary Force, c'est quand même pas rien. C'est la société qui avait fait le générique de Seven par exemple. Bon, ils en ont fait beaucoup depuis, des excellents et des moins bons. Mais donc c'est quand même une référence dans le genre. Et je pense que il travaille autour de la thématique d'Asimov, c'est-à-dire tu étais poussière, tu redeviendras poussière. Et là, sauf que ce sont des espèces de poussière d'étoiles avec la musique de Birman Crary. Moi, c'est pareil. Je trouve c'est marrant parce que Birman Crary s'est fait connaître. Par la puissance martiale, tribale même de Battlestar Galactica, qui tranchait nettement avec le côté space opéra. C'est-à-dire que lui, il n'allait pas du tout dans quelque chose de justement d'opératique. Il allait vers une orchestration beaucoup plus frugale, quelque chose de très sec. Et là, il a une espèce de truc un petit peu éthéré. Lui, apparemment, son grand principe de composition, c'est qu'il a fait appel à des algorithmes de programmation pour que il y ait des espèces de ritournelles un peu systémiques comme ça en fond. Mais je sais pas, je trouve pas que le résultat c'est pareil. C'est une très bonne intention, mais j'ai pas trop l'impression. Tu perçois un peu le côté cyclique, mais effectivement, j'ai pas trop l'impression non plus que ce soit extrêmement mémorable.
Et cette poussière d'étoiles quand même qu'on voit dans le générique, elle rappelle aussi les espèces de grandes fresques qu'on voit le palais de l'Empire.
C'est ça, c'est-à-dire ces pigments. Voilà, il y a les pigments là qui sont donc inspirés c'est les Tibétains, je crois, qui font ça, ce genre de peinture. En fait, au sol, à partir de pigments en fait teintés et qui bougent en fait un petit peu, mais c'est pareil, c'est pas très bien exploité ça d'ailleurs dans la série.
Vous le trouvez pas très tendance quand même le générique en soi?
Bon, je sais pas moi, pas. Et puis tout le la technologie aussi au cœur en fait de la psychohistoire, je pense qu'elle est, elle fait référence à ça aussi quoi. Voilà.
C'est des mandalas tibétains.
Des mandalas tibétains, ça va. Ouais. Voilà.
Très bien.
Je vais plus espérer que ça.
Non, mais très bien. Mais donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. L'histoire, justement, la psychohistoire, l'histoire de Fondation. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu? Alors, je sais que c'est ardu parce que, voilà, Fondation, on l'a dit, ça s'inscrit dans le cycle Fondation déjà. Mais plus précisément, là, dans la série, qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est. En fait, Asimov. Philippe K. Dick, lui, c'était un auteur de SF qui était plus sur la perception de l'esprit, par exemple. Et je sais pas, moi, Ray Bradbury, c'était plus de l'ordre de la poésie et de la métaphore qui l'a conduit à faire les hommes-livres à la fin de Fahrenheit 451, par exemple. Lui, Asimov, moi, je l'ai toujours perçu, enfin, en tout cas, dans ses grandes œuvres, c'est-à-dire dans le cycle des robots et dans le cycle de Fondation, comme un romancier très cartésien. C'est-à-dire qu'il part d'un principe et il va essayer de casser le code, vraiment, littéralement. Or là, le code de Fondation, c'est qui se retrouve quand même dans la série, c'est il imagine que dans un futur très très lointain, alors que l'Empire au pouvoir de l'humanité en fait est sur le déclin, en tout cas qu'il a un déclin qui se profile à l'horizon, tu as un scientifique absolument brillant, enfin un véritable génie qui s'appelle Harry Seldon et qui met en place une nouvelle science qui s'appelle la psychohistoire, qui est une espèce de prospection scientifique plus.
C'est des super probabilités, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que il essaye avec la théorie des grands chiffres, avec il essaye de, enfin, il peut prévoir les grands mouvements de l'humanité, pas dans le détail, pas au niveau d'un individu, hein, mais vraiment de façon générale. Et il va créer une fondation, d'où le titre, dans laquelle, alors c'est une crypte, si mes souvenirs sont bons dans le roman, là c'est une espèce d'artefact un peu mystérieux, enfin tout au début on comprend pas trop comment ça a fonctionné, et qui est aux confins de l'univers, et qui au moment opportun, mais qui échappe à tout le monde, parce que le grand plan d'Harry Seldon échappe à tout le monde, au moment opportun va s'ouvrir, va distiller le savoir en fait à l'humanité, donc ça peut être des informations, ça peut être une mise en perspective, ça peut, voilà, pour que les périodes de barbarie, de les périodes les plus sombres en fait de l'humanité soient réduites à leur portion congrue. Voilà, ça c'est le concept de base, et après, dans le roman, c'est beaucoup plus distendu en fait que ça, enfin je trouve.
Le roman, on l'a dit, est composé de plusieurs nouvelles, de 5 nouvelles, qui se passent chacune à une époque différente. On retrouve ça dans la série.
Oui, alors on retrouve ça difficilement, hein, je trouve, hein, parce que déjà en termes d'adaptation, il y a en premier lieu, il y a l'idée que les Cléons de l'Empire, enfin les tenants de l'Empire, les chefs d'État en fait, soient des clones, c'est ce qui est complètement une idée de Goyer et de Friedman, qui est c'est une idée d'adaptation. Et la logique en fait de Goyer là-dedans, c'est de dire voilà, puisque c'est des clones, je peux me permettre de leur donner un visage et de les faire revenir régulièrement, alors que dans le roman en fait ils sont presque c'est des ombres presque en fait, c'est-à-dire qu'on les voit pas vraiment, et du coup pour lui c'est une manière de les identifier, et donc une manière effectivement de pouvoir passer d'une temporalité à l'autre. Sauf que moi je trouve que le problème dans cette adaptation là c'est que justement en fait on s'y perd complètement dans c'est-à-dire que ça peut ressembler à une bonne idée sur le papier éventuellement, c'est-à-dire en termes de conceptualisation on se dit bon bah voilà, si on fait ça on va pouvoir permettre au spectateur d'avoir un point d'accroche, sauf que t'as un point d'accroche avec les personnages certes, mais t'as plus du tout un point d'accroche avec la temporalité en fait de voilà ce que disait Julien quand il disait que effectivement l'idée de Goyer c'est d'avoir le temps comme un personnage, bah oui c'est raté en fait sur ce point là et du coup cette temporalité là moi je trouve qu'on la perd complètement y compris dans la façon dont le récit est articulé, parce que s'il y a des moments où c'est plus ou moins clair, par exemple il y a, je sais plus dans quel épisode, peut-être le 3e ou le 4e,
alors attends, on prévient, on va spoiler.
Oui, on spoil évidemment. On spoil la série, hein, en tout cas. Il y a par exemple le départ d'un des Cléons, en fait, vraiment le dernier jour, etc., où ça peut donner. Là, tu comprends exactement où est-ce qu'on est à peu près dans la temporalité des événements, et ça explique
le fonctionnement de cette dynastie.
Exactement, voilà. Et en même temps, les problématiques émotionnelles que les personnages peuvent avoir, c'est-à-dire dans leur fonction, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de mère, le fait de ne pas avoir de... Voilà.
Alors, ce qu'on peut expliquer, juste, on va détailler rapidement. Donc, c'est cette dynastie, ça fait 12 000 ans que l'Empire gouverne la galaxie. Et il y a une dynastie de clones de cet empereur Cléon Ier. Et au pouvoir, il y a trois... versions différentes de lui-même, un vieillard, ou en tout cas un homme âgé, un homme dans la fleur de l'âge, et un jeune garçon.
Voilà, chaque personnage, en fait, le plus vieux donne des conseils de...
Il incarne la sagesse.
Voilà, et donne des conseils au suivant, quoi. Ouais. Donc, et le forme, en fait, à prendre sa place au fur et à mesure. Et donc, dans ce fonctionnement-là, bah, le plus vieux, à un moment donné, arrive un jour, il doit partir, quoi. Et voilà, il y a des épisodes où on joue ça. Donc ça, quand on a ce genre d'épisode-là, quand on a ce genre de petite introduction qui dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes dans la série, ça fonctionne à peu près. Tu comprends à peu près où on est. Mais pour moi, après le reste du temps, on est complètement perdu, sauf quand il le précise, quand il précise que tel personnage se retrouve en cryosommeil pendant 35 ans, ce genre de choses. Mais par exemple, moi, je sais pas vous, mais je suis totalement confus par la temporalité dans la dernière scène du dernier épisode de la première saison. Hein. C'est vraiment, je me dis, mais on est qui et quoi, comment, à quel moment. Donc c'est vraiment, parce qu'il y a une révélation. Oui, mais il y a une révélation en fait, si tu veux. Et du coup, je sais pas très bien compris comment ça fonctionnait, quoi. Donc très bien, mais
ça c'est pas le pire de tout, quoi. Mais
non, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on perd, cette idée-là, puisque en fait, le principe même justement de dire que ça va prendre tout ce temps-là pour que l'Empire se délite et que l'Empire ne le voit pas de lui-même, si ce n'est qu'en fait ils ont peur de cette prédiction, c'est quelque chose qui fait que je trouve qu'on perd complètement cet enjeu-là. C'est-à-dire de toute la série, de toute la saison 1, c'est un enjeu qui, à mon sens, mais totalement perdu. Ce que je viens raconter, c'est un énorme contexte en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a cette idée-là, et après t'as la façon dont certains événements sont racontés dans le roman. Et dans le roman, la plupart des gros événements comme ça, ils sont racontés, ils sont pas montrés. Et tout le principe de la série, pour le coup, c'est de les montrer. Et du coup, ça devient une série de SF action, quoi, en fait. Là où c'est pas du tout, et c'est là pour moi en fait où il y a un vrai problème d'adaptation déjà de toute façon, quoi.
Mais le truc avec Asimov, c'est que, et en particulier dans Fondation, c'est que donc c'est une série concept qui met à l'épreuve le principe que j'ai exposé tout à l'heure. Et le truc, c'est que Asimov, il s'embarrasse pas du reste. C'est-à-dire que lui, y a pas. En fait, dans Fondation, basiquement, il y a pas vraiment de personnage. En tout cas, t'as pas le temps de t'attacher au personnage. Il y a pas un caractère, il y a pas d'histoire de romance extrêmement développée. Ça vient peut-être un peu plus tard. Et encore, c'est tout à fait discutable, quoi. Il y a très peu d'action dans les romans aussi, extrêmement peu. Ce sont des personnages qui parlent, qui débattent en fait de ce qui va se passer, de à quoi sert la fondation, pourquoi elle peut fonctionner.
Ça parle de politique en fait, ça parle de politique, de société.
Disons que ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes d'un autre. Oui. C'est-à-dire que c'est comme dans le cycle des robots, quand il t'expose les lois de la robotique et qu'ensuite il va les confronter en fait à la réalité du terrain pour te montrer que ces lois de la robotique qui semblent pouvoir te préserver de tout risque vis-à-vis de l'intelligence artificielle, bah non. Au bout d'un moment, quand tu les pousses jusqu'à leur point maximum, ça provoque des absurdités et tout. Encore une fois, je vois ça comme ça, que c'est une démarche de scientifique, de mathématicien, en tout cas, voilà, bon. Et en fait, le truc avec Goyer, là où, moi, mon avis, il s'est retrouvé face, il y a deux paradoxes, en fait. Il y a deux gros problèmes quand tu adaptes Fondation. Il y a un premier problème qui est la temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu adaptes sur Fondation? Et sur quel temps? D'adaptation. Et un deuxième qui est donc ce problème de point d'ancrage et de, comment dire, de comment tu appâtes en fait ton spectateur en fait vis-à-vis de ça. Sur la première question, moi je suis déjà très, enfin, je le comprends, qu'il soit limité à cette adaptation-là pour une seule saison, mais moi j'ai pas arrêté j'ai passé les 10 épisodes, il y a 10 épisodes, à me dire c'est ou trop ou pas assez. C'est-à-dire que là, ce qui est très stimulant, en tout cas pour moi, dans le cœur de Fondation, de la saga, du cycle de Fondation, en tout cas sur le début, c'est que ça va très vite, en fait. Et que très très rapidement, dès qu'il y a une crise qui est résolue, tu passes à la suivante, il t'expose les règles du jeu, tu te dis comment on va résoudre ça avec la psychohistoire, et hop, il retourne comme ça. Mais ça va vite, tu te perds pas, parce que c'est ça l'intérêt. Et là, en fait, David Goyer, donc lui, il a décidé d'étendre, et il a décidé en même temps qu'il allait étendre, de nourrir finalement les personnages avec tout ce qu'il a lui. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les personnages qu'il nous propose et qu'il présente, moi personnellement, je les trouve, il y en a aucun pour lesquels j'ai vraiment de l'affection et pour lesquels ça fonctionne. Et quand il a une bonne histoire, une bonne idée, parce que moi je trouve que c'est une très bonne idée le coup de l'Empire en fait d'en faire trois entités. Je reviens en fait à ce concept de figurer le temps, ce qui moi m'a intéressé au tout début quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il a trouvé une façon de faire se dialoguer à une personne avec ses propres temporalités en les incarnant. C'est comme un truc de voyage dans le temps où Marty pourrait discuter avec lui, ou quand Marty il se voit jouer en 1957, il dit ah je suis pas mauvais et tout. Bah ça serait intéressant, c'est-à-dire que Clémence qui rencontre sa Clémence plus âgée et la Clémence plus jeune, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce qu'elle te dirait. Je pense qu'il y aurait aussi un truc de peut-être d'affect. Enfin, il y a un truc qui marche pas du tout. C'est-à-dire que ça pourrait être trois personnages complètement différents. Ce serait la même chose. Et puis, alors moi, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup...
C'est parce que techniquement, c'est trois personnages différents.
Oui, mais c'est un problème, je pense, vraiment d'écriture, fondamentalement. Il y a un truc aussi que je trouve tout à fait problématique, c'est la façon qu'il a eu de... Goya, il est parti du principe que les fondations d'Asimov parlaient de leur époque, et c'est vrai, c'est indéniable, et il a décidé de parler de notre époque aussi dedans. La question, c'est comment tu fais ça? Et là, c'est tellement grossier, quoi. Et c'est pareil, c'est dommage parce qu'il y a des belles idées. Par exemple, le costume que Lipace, le personnage de Lipace, porte. Et donc Lipace, c'est l'Empire, mais qui est Cléon, mais celui du jour. Donc c'est pas le matin, c'est pas le soir.
Celui du milieu.
Celui du milieu, exactement.
Quarantaine d'années.
Il a une espèce d'armure en vert bleu. Et en fait, ils se sont inspirés d'un vert romain. Quand je l'ai vu le design, je me suis dit, il y a un truc qui fonctionne là-dedans. Je comprenais pourquoi il fonctionnait. Et après, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait, parce que ça évoque effectivement ce vieux vert qui a traversé les temps, qui est en même temps extrêmement fragile, qui a une noblesse aussi profonde. Et là, ça fonctionne. Par contre, quand il te parle du réchauffement climatique, en fait, Goyer, quand il te parle de, moi, je sais pas, moi,
la montée des eaux sur Synax.
Voilà, exactement. Par exemple, avec ça, ou quand il te parle de la montée des extrémistes ou de la, en tout cas pas forcément ça, mais en tout cas de la problématique du terrorisme ou ce genre de choses, je trouve que c'est fait tellement avec des gros sabots, ça alourdit incroyablement le propos et ça rend la série extrêmement pataude, laborieuse dans sa progression et pas très plaisante, quoi.
Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai aussi ce problème dans la conception même de la science-fiction. C'est-à-dire que, en gros, alors déjà, le premier truc, c'est que c'est censé être une série phare, une série très très chère.
Ouais. On va revenir en détail sur toute la prod dans le deuxième épisode.
Alors ça, non, hein, pour le coup,
ça a été
démenti par l'équipe. Hein.
Le budget.
Ouais.
Oui, parce qu'en fait, là, ce que j'ai vu récemment, c'est que c'était un budget de 45 millions de dollars, ce qui me semble finalement assez léger pour l'ambition, on va dire, de la série.
Ouais, 4 millions et demi par épisode, c'est un tout petit peu moins que Game of Thrones au début de.
Oui, mais on est 10 ans après, et puis en fait, on est dans une autre type de, c'est-à-dire que en fait,
c'est de la SF.
Les guenilles tournées dans un château, bon, c'est une chose, mais là, tu vois, quand on te présente Trentor au début, enfin, c'est comment ça, Trentor, c'est ça, la ville, enfin, la planète, quoi, de l'Empire, on t'explique qu'il y a des millions et des millions et des millions d'habitants, et c'est peut-être un petit peu flagrant dans le premier épisode où tu te dis, bon, ben, quand le personnage arrive au début et qu'elle visite un peu les lieux, même si ça reste quand même, je trouve, assez chiche, quoi, mais alors dès que on sort de ce premier épisode là qui a été d'ailleurs donné à un réalisateur de cinéma qui est Rupert Sanders, dont on va un petit peu parler, parce que moi il est pas responsable, on va dire, du style de la série, mais je pense qu'en fait c'est une note d'intention assez intéressante. C'est que, en gros, quand tu passais cet épisode là le reste, en fait, c'est assez chiche, en fait, je trouvais. Du coup, s'il y a bien peut-être quelque chose qu'on pouvait vraiment adapter, même si je pense que c'est pas automatiquement dans l'esprit d'Asimov à la base, c'est éventuellement le souffle, en fait, du space opéra. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, l'aspect visiter des planètes, etc. Et ça, finalement, je trouve que c'est une portion très très mal gérée. Et après, l'autre problème, moi, que j'ai, on va dire, c'est pour ça que je parlais de Rupert Sanders, c'est que c'est quelqu'un qui a adapté Ghost in the Shell, Rupert Sanders. En fait, il a fait la version cinéma avec Scarlett Johansson qui est sortie il y a quelques années. Et mine de rien, encore une fois, il est pas responsable.
Qui avait fait Blanche-Neige et le Chasseur et qui a un gros mec de la pub.
C'est un esthète bien dans l'air du temps, quoi. Et je trouve que ça s'en ressent en termes de notes d'intention dans le premier épisode. C'est pour ça que je parlais un peu de pub pour parfum quand je parlais du générique d'ouverture et de ce genre de choses. C'est soigné, hein. C'est très léché, il n'y a pas de problème, etc. etc.,
la photo
etc.
est belle, hein.
Mais on reste dans la surface de ce qu'on est censé raconter, exactement comme Ghost in the Shell restait dans la surface de ce qu'il était censé raconter, c'est-à-dire que toutes les implications philosophiques, politiques, etc., etc. de l'œuvre de Shiro et ensuite de Mamoru Oshii, elles sont mais littéralement perdues dans une œuvre d'esthète discutable, en fait, parce qu'après c'est des goûts personnels d'esthétique, quoi. Moi, c'est pas forcément les miens, et en tout cas je quand on adapte ce genre de choses, je préfère qu'on troque pas l'un pour l'autre, quoi. Et là, j'ai exactement ce problème là finalement, fondamentalement, Asimov, en fait, tous ces concepts politiques, tous ces concepts, etc., ils se perdent pour moi dans l'idée de les incarner par quelque chose de charnel, voilà. Et ça me fait penser un peu à cette adaptation de Solaris par Soderbergh, que tout le monde, je pense, a oublié aujourd'hui, mais qui était, voilà, où Soderbergh s'était dit, mais en fait, si je dois adapter Solaris, bah, comme ça a déjà été, comme le pendant intellectuel, philosophique a été fait, bah, je vais l'adapter de manière charnelle. Et c'est une erreur. Autant faire autre chose. Et là, pour moi, c'est exactement le même problème.
Je veux bien rebondir sur ce que Stéphane a dit. Déjà, sur la problématique du budget, effectivement, il y a, quand on regarde, si vous avez regardé un petit peu les interviews promotionnelles faites, notamment avec Goyer, c'est assez rigolo parce que les journalistes, en règle générale, ils ont vu qu'un ou deux épisodes et c'est là où il y a le plus d'argent. Moi, je trouve aussi, après, il y a vraiment une problématique de budget, hein, dans la série. Et Goyer, il arrête pas de dire, non, mais c'est pas un gros budget, en fait, hein. C'est pas un gros budget. Et j'ai aussi, pour la préparation, j'ai lu pas mal d'interviews avec les équipes et tous se plaignent du manque d'argent. À tel point que ils ont, par exemple, ils ont choisi des lentilles anamorphiques pour récupérer des flares et tout, mais aussi parce que les lentilles qu'ils ont choisies avaient une profondeur de champ et des aberrations optiques qui leur permettaient de ne pas avoir à gommer numériquement des éléments de décor qui étaient indésirables, en fait. Donc ils en étaient là, hein, au niveau du budget. Et en plus, la série s'est pris le Covid en pleine tête, a dû déménager, en fait, en plein truc. Donc je pense que ça a été quand même, malgré tout, une production qui a été compliquée. Et c'est ce que Goyer dit. Ils sont sortis parce qu'en fait, ils ont, par rapport à tous ces problématiques d'argent et de temporalité différentes, ils ont eu du temps. C'est le seul truc qui a pu les changer. Après, sur le design de la série, moi j'aime.
Alors peut-être que le design, on en parlera dans l'épisode suivant.
Tu voulais en parler, mais parce que Stéphane en avait parlé, en fait, déjà sur le truc de la pub pour parfum. Je voudrais juste, moi, en fait, c'est un truc que j'ai aussi utilisé, le truc de pub pour parfum, mais en fait, j'aime pas trop. C'est comme à une époque, on disait tel ou tel réalisateur, il fait du clip. Ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que je pense que dans la pub pour parfum, tu peux avoir du cinéma, du vrai, quoi. Moi, il y a quand même le truc, c'est que je pense
qu'il y a. Est-ce qu'il y a du cinéma dans Fondation ?
Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de vision, en fait. Et je pense que ça, c'est dû aussi à David Goyer. Et je pense qu'on en reparlera aussi, je crois, dans le deuxième épisode. Mais je pense que David Goyer, c'est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un auteur, c'est pas vraiment un mec qui a une vision. Enfin, pour moi, il l'a jamais prouvé auparavant, quoi. Et c'est marrant parce qu'il s'est réservé la réalisation du dernier épisode et c'est pas terrible, quoi, hein, ce qu'il a fait, moi, je trouve. Hein. Mais donc voilà, quoi. Ça manque vraiment de. C'est Asimov, quoi. Merde. Il faut que ce soit porté par quelqu'un visuellement qui a quelque chose en lui.
Mais quoi. Pas que visuellement, hein. Alors, je pense aussi intellectuellement, quoi. C'est-à-dire que en gros, par exemple, on parle de ce personnage qui est censé plus ou moins être un des personnages principaux, qui est Salvor Hardin. Au-delà, en fait, du changement de genre, il y a aussi un changement
de.
Son
arc narratif est modifié aussi.
Oui, mais c'est surtout sa fonction. Oui. C'est-à-dire, à la base, c'est un maire.
Oui,
c'est le maire de Terminus.
On n'a pas encore parlé de ce personnage-là, voilà. Salvor Hardin. Donc, c'est dans le roman, c'est le maire d'une planète qui s'appelle Terminus, où Harry Seldon est.
C'est le trou du cul de l'univers.
C'est là où ils mettent la fondation.
Où Harry Seldon va s'installer avec toutes les personnes qui vont monter la fondation. Mm-hmm. Et Salvor Hardin est le maire de Terminus dans le roman. Dans la série, ça devient la gardienne de Terminus et elle a un rôle qui est beaucoup plus dans l'action et moins dans la diplomatie.
C'est très symbolique, ça, quand même. Je veux dire, il y a deux éléments de différents, en fait, par rapport au roman, plus que ce qu'il a fait sur l'Empire et tout. C'est le changement avec ce personnage, c'est-à-dire en faire tout à coup une femme d'action. Plus une femme qui est
un homme dans le roman
qui est dans le poétique, oui, mais ça,
bon,
ça
me, non mais bon, c'est, faut le préciser.
Et
quand on parle de changement d'adaptation,
Harry Seldon meurt à coup de poignard, en fait, dans le truc, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que c'est l'autre problématique, c'est que je me suis dit, il fait pas confiance finalement à Asimov, Goyer, quelque part. Pour avoir un besoin comme ça de rajouter du pathos, de l'action, remettre des trucs et tout comme ça. Il y a un truc aussi, un autre truc du coup aussi qui est bizarre, c'est que non seulement il essaye de doper finalement ce récit avec ces événements-là, mais du coup, ça amoindrit le reste, je trouve, quelque part. C'est perdant là-dessus.
On en parlait avant l'émission. Moi, je te disais que ça m'a vraiment donné l'impression. Alors, je le rappelle, on spoil, hein, mais donc le personnage de Harry Seldon, à la fin de l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, se fait assassiner. ce qui ne figure pas dans ce qui ne figure pas dans le roman, dans le livre. Et moi, je me suis dit, en fait, là, Apple TV, ils essayent de faire Game of Thrones. Ils veulent nous faire ressentir la même chose que quand Ned Stark s'est fait tuer, alors qu'on s'y était attaché, qu'on l'aimait bien, et d'un coup. Il nous tue le personnage.
C'est surtout un cliffhanger, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on te balance ça et puis t'attends parce que, alors, il faut préciser peut-être aussi ce truc-là pour les gens qui n'ont pas encore regardé la série. Là, maintenant, elle est disponible en entier. Mm-hmm. Mais en fait, l'idée, c'est un peu comme Game of Thrones, c'est justement d'avoir un épisode par semaine. Et du coup, on n'est plus dans la logique de binge, de binging de Netflix. Faut vraiment, en fait, on peut, comment dire. Et donc, ça induit forcément, en fait, une façon d'écrire,
Suspense.
Voilà, exactement. Donc, c'est un cliffhanger, qui, bon, pour moi, ne fonctionne pas trop, vraiment, quoi. Mais alors peut-être parce que je connaissais un peu les romans, quoi, mais le truc c'est que même au-delà de ça, je pense que de toute façon ils ont besoin de moments, c'est-à-dire de moments d'action, de moments de péripéties, de choses comme ça, ce qui n'est pas encore une fois le propre du roman, c'est-à-dire que en fait le 6 points de vue il y a, c'est vraiment là, en fait, c'est vraiment dans l'idée de rendre quelque chose de charnel, quelque chose qui ne l'est pas à la base, en fait, qui est extraordinairement intellectuel, qui est extraordinairement philosophique et qui est pensé de cette manière-là et qui, on a beaucoup parlé récemment d'adaptation aride pour le Dune de Villeneuve, mais c'est pas ça l'aridité, en fait, hein, c'est pas une conception. Là, on peut pas reprocher, on va dire, à Fondation, d'être une adaptation aride, pour reprendre les termes de la façon dont on peut défendre le Dune de Villeneuve, dont certains défendent le Dune de Villeneuve, mais par contre ce n'est pas Fondation. Moi à la fin, pour moi, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que quand j'ai regardé la série complète, là c'est la saison 1, ce n'est pas Fondation. C'est-à-dire il y a quelques éléments ici et là, et puis en fait ça reste une série dans l'air du temps, que ce soit stylistiquement, que ce soit évidemment dans ce que ça raconte, comme l'a dit Julien. Donc voilà, c'est mine de rien, le truc c'est que si Fondation est là depuis 60 ans, si les gens se posent des questions de pourquoi l'adapter au-delà du nom, au-delà de ce que ça représente, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et tu peux lire Fondation, je pense, aujourd'hui, et te retrouver totalement, en fait, dedans et comprendre, en fait, les enjeux politiques, philosophiques. Donc là, quand je dis pub pour parfum, pour reprendre une expression que Julien n'aime pas, c'est parce que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire vraiment, il y a cette logique-là aussi. C'est ce que ça implique, quoi. Fondation, c'est pas ça. Tout bêtement, quoi.
Alors, c'est pas ça, mais en tout cas, la fille d'Asimov, Robin Asimov, compte parmi les producteurs exécutifs de la série. Bah oui,
s'il y a de l'argent à se faire.
Tu fais des grandes choses. Mais en tout cas, officiellement, pour elle, la fondation de David Goyer a surpassé toutes ses attentes. La série transpose à l'écran la philosophie et les idées de mon père mieux qu'il n'aurait pu le faire sans rien trahir de son œuvre.
La langue de bois est là.
Les droits ont été négociés. Hein.
Ouais, bien sûr.
Ouais, quand on voit le traitement qui a été réservé aux œuvres de son papa par le passé,
tu m'amènes la transition parfaite vers.
Il gère pas très bien ce qui est l'œuvre du paternel.
Les autres œuvres de Asimov qui ont été adaptées, il y a quoi dedans? Bah, iRobot, hein, qui est.
Qui est pas nul, hein, moi je trouve pas. Il y a des choses intéressantes dans iRobot. Après, le gros problème, c'est Will Smith et l'ego trip autour de Will Smith.
Et puis, le truc, encore une fois, c'était un truc dans l'air du temps de cette époque-là, quoi. Mais
il y a des choses quand même dans iRobot, il y a quelques trucs, quoi. Dans le troisième acte, notamment.
Ça reprend les grandes thématiques du cycle des robots, mm-hmm. mais en fait, c'en est très éloigné, là aussi, finalement.
Non, mais il y a les règles de la robotique et ce genre de choses qui sont impliquées dans le film. Moi, je suis pareil, je suis pas un grand fan du film, hein, et c'est un film qui pue le compromis à tout bout de champ, quoi. De toute façon, si tu dois adapter Asimov, il faut de l'argent, il faut un budget, il faut quelque chose, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que quand tu dois adapter ça, tu dois l'adapter. Les règles de la narration, voilà. Et là, le problème de Fondation et le problème d'iRobot, c'est que il se posait des questions de comment est-ce qu'on va ramener le grand public pour venir voir ça. Et à mon sens, les deux projets se plantent dans les grandes largeurs, dans la façon d'aborder ça, quoi. Mais c'est tout le paradoxe, en fait, d'accepter que oui, d'un côté, il faut de l'argent pour adapter ça, et de l'autre, parce que c'est quand même assez fondateur, hein, mine de rien, en termes de SF, quoi. Ça se pose là, quoi. Mais de l'autre, on peut pas traverser ça, en C'est pas de la pub pour parfum, iRobot, mais c'est de la pub pour les Converse de Will Smith, c'est ce genre de choses. Donc, voilà.
Non, mais dans iRobot, au moins, t'avais des scènes, alors, je l'ai pas revu pour l'épisode, mais il y a une scène d'interrogatoire avec un robot, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc d'Asimov, parce que, je pense pas qu'il faille, si Fondation, définitivement, faut beaucoup d'argent, mais cette série n'en a pas assez. Mais par exemple, dans le cycle des robots, non, pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, ça a beaucoup inspiré un film qui s'appelle Dark Star, les nouvelles d'Asimov, qui est la première réalisation de John Carpenter, écrite par Dan O'Bannon. Et il y a une séquence qui est clairement où un cosmonaute discute avec une bombe, enfin en tout cas avec l'intelligence artificielle qui anime une bombe, et c'est juste un champ contre champ, et ça peut être passionnant, et c'est tout. Asimov, tu peux voir des bribes d'Asimov quand Bouman il éteint Hal à la fin du deuxième acte de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc
qui est un film avec de l'argent.
T'as pas forcément besoin, mais cette scène-là ne nécessite pas un argent monumental. Et donc au moins dans un robot t'avais ça, t'avais ce truc là et puis t'avais quelques images dans la révolution des robots et tout, oui, qui pouvaient être relativement satisfaisantes, et quand bien même il y avait les compromis, il restait à la barre un cinéaste qui a quand même quelque chose, quoi, qui est Alex Proyas. Il avait vraiment il a vraiment des volontés en fait de cinéaste, qui quelques trucs qui restaient, quoi, le design de robots et tout.
iRobot, c'est 2004, et en 99, donc avant ça, il y a une autre œuvre d'Asimov qui est adaptée au cinéma, c'est L'homme bicentenaire, qui est l'adaptation de Tout sauf un homme. Bah oui, mais il fallait en parler aussi quand même.
C'est vrai,
réalisé par Chris Columbus avec Robin Williams. Alors là, on est encore dans un autre style. Hein.
Bah, on est dans la comédie familiale, quoi. C'est-à-dire que en gros, de mémoire. Ça se perd. Enfin, je veux dire, alors ça se pareil. J'ai pas revu le film depuis l'époque, puisque en fait c'est quand même un film, pour la petite anecdote, qui est tellement finalement mal raconté que et pour le coup j'ai jamais lu l'œuvre originale de d'Asimov, mais qui est un film qui est tellement mal raconté qu'à chaque fondu au noir j'avais l'impression que c'était vraiment la fin du film. Et il y en a eu 5 comme ça en fait. Donc ça c'est vraiment voilà. Encore une fois, je suis pas forcément le spécialiste d'Asimov, hein, loin s'en faut, mais j'ai pour mémoire en fait que l'humanisation du personnage de l'homme bicentenaire, justement à un moment donné, cette acceptation de devenir humain passe par le fait de montrer Robin Williams péter, ce genre de choses, tu vois. Donc bon, ça je doute que ce soit dans le roman, mais bon, après peut-être qu'on me contredira. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça où en fait le problème c'est que il y a cette idée qu'on doit en fait transformer ces romans là en fait en blockbuster, quel que soit familial, que ce soit SF, que ce soit série télé, etc. ce qui est pas forcément la bonne approche, et encore une fois l'idée de s'accrocher à le spectateur d'un point de vue émotionnel, alors qu'en fait là encore une fois c'est des concepts et c'est des thématiques en fait que traite Asimov, et c'est pour ça aussi que ça reste
compliqué, hein.
Il y avait une belle idée quand même dans l'homme bicentenaire, c'est que en fait donc le personnage principal, qui est un robot, qui donc comme l'a expliqué Stéphane va s'humaniser, enfin devenir de plus humain que les humains à mesure que l'histoire progresse. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'ellipses et de sauts dans le temps dans le film, si pour le souvenir que j'en ai. Mais il y avait une belle idée qui était que Robin Williams était entièrement recouvert d'un costume de robot qui était techniquement incroyable, fait par Steve Johnson, un truc de dingue, et que plus le film avance, donc plus le personnage évolue, plus toi tu évolues en fait avec lui. Enfin, c'est le projet. Bon, évidemment ça marche pas comme ça parce que le film n'est pas mémorable, enfin en tout cas pour moi, plus en fait tu retrouves Robin Williams en fait. Et ça, c'était un principe de cinéma pour le coup, que je trouve totalement cohérent avec l'écriture d'Asimov, en tout cas avec ces idées là qui est très épurée qui aurait pu être très épurée et qui aurait pu vraiment bien fonctionner. Le problème, c'est que là encore, comme dans Fondation, hein, Chris Columbus s'est senti obligé de rajouter beaucoup, beaucoup de trucs d'émotions et tout. Moi, de ce que je connais d'Asimov, et encore une fois, je suis pas un spécialiste, donc, mais n'appartient pas forcément en fait à son univers, à ce qu'on aime chez lui encore.
Et dans Fondation, il y a une tentative de prendre en fait cette thématique-là et de la mettre un petit peu dans la série, puisque en fait, il y a la présence de Demerzel en fait, qui est une machine, un robot qui est pour le coup vraiment millénaire et qui a vécu en fait énormément de choses
et qui existait déjà d'ailleurs dans le cycle des robots.
Dans le cycle des robots, mais en fait c'est un des principes aussi justement d'Asimov, d'avoir mélangé les deux univers en fait mais ça c'était pas automatiquement le cas dès le début, c'est des préquels et des suites en fait qui ont pris ça en compte.
C'était des commandes de son éditeur aussi pour créer une continuité entre en fait chronologiquement. Dans l'histoire de cet univers-là, il y a d'abord le cycle des robots, ensuite le cycle de l'Empire et ensuite le cycle de Fondation, si je dis pas de bêtises.
Oui, alors le truc, en tout cas, dans la série, c'est que l'idée, en fait, est plus ou moins similaire, on va dire, à de questionner, en fait, est-ce que les machines ont une âme, en fait? Est-ce que les clones ont une âme? Est-ce que les machines ont une âme? Et en fait, c'est une opposition de Demerzel et Cléon. Et du coup, un questionnement autour de foi en fait en l'Empire et ce genre de choses, etc., etc. Et d'ailleurs, avec un inversement total de ce que fait l'homme bicentenaire, c'est-à-dire que, et là on spoil, mais bon, enfin c'est pas vraiment un spoil à proprement parler, mais à un moment donné, en fait, Demerzel s'arrache justement cette peau synthétique en fait pour révéler son statut de machine, même si on le sait.
Un petit côté Terminator. Voilà,
c'est ça. Mais ça c'est pareil, c'est une manière encore une fois assez charnelle, je trouve en fait, de conceptualiser une thématique qui bon, c'est pas ce qu'il y a de pire dans la
non,
série,
parce que
mais
pour le coup c'est assez efficace. En
ouais,
fait,
c'est pas ce qu'il y a de pire, mais
c'est pas un mauvais truc ce personnage-là. Puis je trouve qu'elle est relativement pertinente ici et tout. Vraiment, c'est pas elle est bien jouée. Moi, j'aime beaucoup la comédienne.
Et c'est pour dire que c'était une tentative d'adaptation. Voilà.
C'est comme il a rajouté les spacers. Je crois pas qu'ils étaient dans les romans. Je m'en souviens pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est la façon qu'il a de les utiliser, qui sont donc des êtres qui sont censés accompagner les Terriens pendant les sauts. Pendant leur période d'hibernation et tout. Je trouve que la façon qu'il a de les...
Dans les voyages dans la galaxie, en fait.
Ouais, ça m'a manqué, ça, par exemple, dans cette série. C'est des personnages vraiment d'arrière-plan, qui doivent rester en arrière-plan, mais qui font vivre, en fait, un univers. Et ça, t'en as très, très,
et
très peu.
Qui viennent donner de l'épaisseur.
Voilà, c'est ça. Moi, il y a un truc, tu vois, à un moment où il y a le... Un spoil aussi, mais... Il y a l'incarnation la plus jeune en fait de l'Empire qui descend dans les bas-fonds en fait de leur ville et tout, et tu voyais les étals de nourriture par exemple, et la création en fait de cette nourriture là elle est d'une pauvreté mais hallucinante, quoi. Je veux dire, tu vas dans le 13e, tu trouves des trucs qui sont plus étonnants au look que ça, quoi. Donc voilà, ça fait aussi partie des trucs où tu te dis il y a un vrai problème aussi de conceptualisation d'univers, quoi.
Bon, on a fait le tour, je pense, pour tout ce qui concerne le récit et la façon dont il a été mis en place par les showrunners, cette adaptation de l'œuvre d'Isaac Asimov. De quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ?
La production. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure.
Eh oui, 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 la semaine prochaine, on va rentrer dans les coulisses de la série. On parlera des deux créateurs, hein, David S. Goyer et Josh Friedman, de la production donc, mais aussi des effets spéciaux, puisque Julien, je sais que tu as plein d'infos intéressantes.
Plein, mais il y a des trucs cool à dire par contre. Il y a des choses vraiment intéressantes sur la fabrication de la série quand même à révéler.
Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné
pour le premier épisode
de cette nouvelle collection. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou écouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Fondation. Bonne semaine et à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.